En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Un an après l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon, les questions économiques liées à cette énergie font toujours débat un peu partout en Europe et surtout en France dans le contexte de la campagne présidentielle de 2012. À cette occasion, l'Académie des sciences morales et politiques organisait en mars de cette année un colloque sur l'avenir du nucléaire dans la politique énergétique française. Canal Académie retransmet la plus grande partie des interventions en trois parties. Retrouvez ici, dans ce deuxième volet, la communication de Benjamin Dessus. Il prône, pour sa part, une sortie pure et simple du nucléaire. Économiste, ingénieur, président de Global Chance, association de scientifiques qui propose une expertise indépendante sur les thèmes de l'énergie et des gaz à effet de serre, Benjamin Dessus est également l'auteur du livre « En finir avec le nucléaire » publié aux éditions du Seuil en 2011. On retrouve sans plus tarder Benjamin Dessus.
Je vais vous dire en deux ou trois minutes d'abord quel est le parcours qui m'amène à aujourd'hui à écrire un livre proposant de sortir du nucléaire. Comme vous le disait Bertrand Collomb, je suis d'une formation d'ingénieur des télécoms, des 30 Glorieuses, et vous voyez ce que ça peut être un ingénieur des 30 Glorieuses, très passionné de science, confiant dans la technologie dans les années 60. Donc, je me suis occupé d'énergie à peu près toute ma vie, mais pas spécifiquement de nucléaire d'ailleurs au début, mais avec une certaine confiance dans la science, des doutes sur l'organisation française de nucléaire au moment où, sous l'impulsion de Boiteux, on démarrait un gros programme nucléaire, à la fois sur son ampleur et sur la fin du cycle nucléaire. Vous vous souvenez qu'à l'époque, le vrai problème du nucléaire était le problème des déchets. Tout le monde s'engueulait sur les déchets, sur l'avenir des déchets. Et on avait un certain nombre de doutes et de critiques sur cet aspect-là. Mais en gros, on se disait, moi et un certain nombre de gens, dans les scientifiques du moment, la technologie va résoudre ça et la science va résoudre ça. En 78 ou 79, Three Mile Island, premier choc, en se disant, finalement, on peut avoir un accident qui n'est que grave, qui n'est pas majeur dans la mesure où les populations n'ont pas été touchées, mais c'était quand même une remise en cause assez sérieuse de la sûreté des réacteurs, l'idée que la probabilité qu'on jugeait à 10-6, 10-7, malgré qu'elle soit à 10-6 ou 10-7, une fois ça se produisait. En France, ça n'a pas eu beaucoup d'impact. Les Américains en ont subi un impact beaucoup plus fort, puisque depuis cette date-là, on n'a pas construit un nouveau réacteur. En France, la politique n'a pas changé. En fait, on en a relativement peu parlé. Les affaires ont continué. Le gouvernement et l'industrie nucléaire ont continué à marcher à peu près au même rythme. Il s'est trouvé qu'en 2000, j'ai été amené avec le commissaire au CEA, Pella, et le commissaire au plan, Jean-Michel Charpin, a fait un rapport à Jospin, au Premier ministre de l'époque, sur l'avenir économique de la filière nucléaire. Et là, j'ai constaté deux choses. C'est que, d'une part, l'affaire des déchets était présentée en France comme une affaire marginale, dans la mesure où elle ne représentait que quelques pourcents des matières nucléaires, avec l'hypothèse sous-jacente que le reste, c'est-à-dire 96%, allait resservir à quelque chose. Ça, c'était quand même, tu vois, quand on faisait la somme des masses, il manquait 96% de la masse, et un physicien que j'étais s'était posé la question. La deuxième découverte que j'ai faite, c'est que parmi l'ensemble des scénarios que nous avions produits, il y avait des scénarios avec beaucoup de nucléaire en France, et puis des scénarios dans lesquels on sortait du nucléaire en France à l'horizon 2030. Et assez curieusement, quand on avait fait l'évaluation économique, on trouvait ce scénario de sortie du nucléaire en 2030, c'était en 2000, dans la fourchette des autres. Alors, on peut remettre en cause les hypothèses du moment, du prix du pétrole, des prix du nucléaire et ça, mais on ne trouvait pas une divergence tout à fait considérable. C'est passé totalement inaperçu, mais c'est comme ça. Entre-temps, il y avait eu Tchernobyl, que j'avais oublié de vous signaler, qui est quand même un gros morceau, puisque là, d'une part, pour la première fois, on s'apercevait qu'un accident majeur pouvait avoir des conséquences très graves, catastrophiques pour un pays. Et deuxièmement, qu'on s'apercevait que des gouvernements étaient capables d'avoir une omerta totale sur la question, y compris en France, et au besoin de mentir sur un certain nombre de choses, au point qu'il fallait des ONG qui se créent pour mesurer la radioactivité en Corse dans les champignons, en gros. Bien. Tout ça commençait à produire quelques doutes. En 2006, j'ai eu l'occasion, avec Georges Mercadal, d'être un des animateurs de la commission du débat public sur les déchets nucléaires. Et là, j'ai pris conscience d'un dernier point, qui était l'histoire du bouclage du cycle nucléaire par la génération 4, qui était supposée arriver en 2040 et que le CEA défendait à ce moment-là bec et ongles en disant « on va améliorer le bilan de déchets ». Et je m'étais rendu compte en travaillant avec les gens du CEA que ça avait un côté Perrette et le potelet absolument considérable. Ça consistait à dire « on met en 2040 au point des réacteurs qu'on ne sait pas construire aujourd'hui mais qu'on saura probablement faire ». On suppose qu'on en met suffisamment dans la nature, qu'ils sont acceptés par les gens, qu'ils ne coûtent pas trop cher. Et si tout va bien, en 2140 ou en 2150, du point de vue des déchets, on se retrouve dans la situation d'aujourd'hui. C'était donc un pari sur le temps considérable, un pari technique, scientifique et technique considérable, et surtout l'idée que pendant 150 ans, une société ne va pas bouger. Ce qui est quand même un pari tout à fait considérable. Là-dessus arrive Fukushima. Évidemment, là, c'est la prise de conscience que Tchernobyl et Fukushima n'étaient pas seulement des accidents soviétiques ou des accidents néolibéraux, mais simplement des accidents nucléaires et majeurs, et que ça pouvait se produire dans un pays occidental, avec l'idée que, effectivement, ce que nous disaient les ingénieurs depuis longtemps, où on regardait les probabilités en 10 moins quelque chose, eh bien, finalement, la réalité se trouvait à peu près 300 fois pire que ce qu'on avait imaginé. Donc, voilà. Comment, du point de vue intellectuel et moral, je suis passé d'une attitude critique à une attitude beaucoup plus critique, voire négative, sur le nucléaire. Alors, quels sont les arguments qui sont en faveur sur le nucléaire? Ils sont bien connus. Le premier est l'indépendance énergétique. On nous rebâche ça tout le temps. C'est manifestement faux, puisque nous importons totalement notre uranium. On peut avoir d'autres avantages qu'a signalé Bout tout à l'heure, de taille des réserves, d'importance financière de la réserve, etc., mais pas dans la définition actuelle de l'indépendance énergétique. Manifestement, on n'est pas indépendant énergétique puisqu'on importe tout notre uranium pour fabriquer de l'électricité. Le deuxième argument plus sérieux est celui des gaz à effet de serre. Je vous fais remarquer quand même, coup de pied de l'âne, qu'on ne parle plus du tout d'effet de serre en France aujourd'hui, sauf pour défendre le nucléaire. C'est le seul endroit où on parle des émissions de CO2. Dans tous les autres cas, on n'en parle plus. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Tout en reconnaissant que le nucléaire ne fabrique pas de CO2. Bon, peu de CO2. Je voudrais quand même relativiser un peu cet argument, parce que l'argument selon lequel si on faisait de l'électricité autrement en France, on aurait 40% d'émissions de gaz à effet de serre en plus est un peu gros, parce que ça supposerait qu'on fasse tout avec du charbon, ce qui est assez improbable, donc c'est probablement en dessous de ça, mais bon, c'est un détail. Enfin, l'argument important aussi, c'est l'activité industrielle que ça représente. On a parlé de l'emploi tout à l'heure. Froguillot parlait d'un million d'emplois, ça a fait rigoler tout le monde, mais enfin, c'est pas très grave. On n'est pas sur ces chiffres-là. Et d'autre part, c'est une industrie d'exportation, mais d'une industrie d'exportation assez aléatoire, au moins au niveau des réacteurs. On sait bien que nous avons fabriqué, je crois, 64 ou 65 en mettant les graphites gaz réacteurs nucléaires en France, et je crois qu'on en a exporté 11. Donc, c'est d'abord des industries domestiques, et il y a toutes les chances que ça reste longtemps des industries domestiques pour des raisons évidentes de souveraineté nationale. Je pense que les Chinois ne continueront pas à importer des EPR en douzaine en France, et que le troisième EPR sera chinois, que le quatrième EPR sera chinois, et le cinquième sera vendu par les Chinois à la France. C'est quelque chose qui risque d'arriver. Bon. Donc, ces arguments existent, ils sont relatifs. Reste un argument massu. Nous avons 75% de nucléaire dans notre électricité nationale, à tort ou à raison, moi je pense à tort. Donc, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est à continuer, car on ne sait plus sortir. Donc c'est cet argument que j'ai essayé de regarder de plus près, au mois de juin dernier, en faisant un exercice extraordinairement tendu, qui était un exercice de sortie à l'allemande du nucléaire, c'est-à-dire au bout d'une trentaine d'années de vie des réacteurs. Là, j'avais choisi 33 ans, ce que fait en fait les Allemands, en disant chaque fois qu'un réacteur français atteint une moyenne de 33 ans, en se donnant une possibilité entre 30 et 35, je l'arrête. Parce que de deux choses une, ou c'est dangereux ou c'est pas dangereux. Si c'est dangereux, il faut l'arrêter. On ne peut pas forcément arrêter tout de suite, mais on peut essayer d'arrêter avant d'aller trop loin. Et voyons ce que ça donne et comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Est-ce que c'est physiquement vraisemblable? Est-ce que c'est économiquement vraisemblable? Et sous quelle nature de contrainte? Alors pour faire ça, il faut évidemment regarder deux scénarios. Vous vous souvenez que dans les débats qu'il y a eu pendant la primaire PS Vert, on entendait un certain nombre de gens, dont M. Bigot, dire « sortir du nucléaire va coûter 750 milliards », en oubliant de dire « rester dans le nucléaire, est-ce que ça coûte quelque chose, est-ce que ça ne coûte rien ?» Évidemment, il faut comparer des scénarios, un scénario où on y reste et un scénario où on en sort. Bien, c'est la première précaution à appliquer. Et comme scénario de référence, j'ai pris un des scénarios du ministère de l'Industrie qui a été pondu par Enerdata, un des scénarios que la Commission a regardé, dans lequel on va consommer 520 ou 530 TWh en 2030, en faisant l'hypothèse, première hypothèse, que si on arrête les PWR, on va les remplacer par des EPR. Donc, au même rythme que dans l'arrêt à 30 ans, je remplace par des EPR et puis je vois ce que ça donne. Scénario alternatif, j'essaye de me passer du nucléaire au rythme imposé par cette durée de vie de 30 ou 33 ans. Ça veut dire qu'en 2020, il n'y a plus que la moitié du parc à peu près, un peu moins de la moitié du parc, et en 2030, il n'y en a quasiment plus. Vous voyez que c'est des conditions particulièrement dures. Alors, deux moyens d'y arriver, un énorme programme très volontariste d'économie d'électricité, et puis d'autre part, un appel très soutenu aux énergies renouvelables. On n'a guère d'autres solutions si on ne veut pas faire trop d'effets de serre. Sur quoi se fonde le problème de l'économie d'électricité? C'est vraiment prendre l'inverse de la culture habituelle française, où on commence à parler d'économie d'énergie assez volontiers en France, mais l'économie d'électricité restait culturellement quelque chose d'impossible. C'est un sujet dont on ne peut pas parler. Ça ne s'économise pas, l'électricité, c'est comme ça. Et quand on parle par hasard d'économie d'électricité, les gens vous parlent toujours du chauffage électrique, comme si l'électricité, c'était le chauffage électrique. Or, vous savez que dans l'habitat tertiaire, par exemple, sur les 280 ou 290 TWh que nous utilisons dans le bâtiment, par conséquent, il y en a à peu près 60 qui sont du chauffage électrique et 20 qui sont de l'eau chaude électrique. Donc, il y en a les deux tiers qui ne sont pas du chauffage électrique. Et Wood, tout à l'heure, quand il a parlé d'économie d'électricité, a dit « mais on a du mal à isoler les maisons ». Mais c'est la même chose pour le pétrole, hein. C'est pas spécifique à l'électricité. Par contre, ce qui est spécifique à l'électricité, c'est les lampes, c'est la télévision, c'est l'électromécanique, etc. Et là-dessus, prenons un exemple. Les Allemands qui, dans les années 2000, avaient décidé de sortir du nucléaire, se sont dit « il faut faire très attention à notre consommation d'électricité, puisque nous allons avoir des problèmes si nous quittons le nucléaire, on aura des problèmes de production ». Dans l'habitat, dans le bâtiment, ils ont décidé de programmes d'économie d'électricité d'importants. Quand on regarde ce que l'Allemand moyen en consommation domestique et hors chauffage électrique, puisque les Allemands ne se chauffent pas à l'électricité et que les Français se chauffent à l'électricité, donc ce n'est pas comparable, hors chauffage électrique, les Allemands et les Français consommaient la même chose en électricité domestique en 1999, à 2% près. 10 ans plus tard, les Français consomment 27% de plus en 2009, 27% de plus d'électricité que les Allemands pour les mêmes applications. En 10 ans, avec une politique qu'on peut aimer ou pas, qui veut dire des prix plus élevés par des taxes, qui veut dire une politique industrielle de qualité des appareils électriques, qu'on peut mettre en œuvre ou pas mettre en œuvre, on fait quelque chose qui ressemble à de l'ordre de 30% dans l'habitat. Et vous savez que l'habitat, le bâtiment, ça représente 280 TWh sur 400, 425, c'est-à-dire à peu près les deux tiers de notre consommation électrique. Donc, on voit bien que des politiques volontaristes d'économie d'électricité peuvent être efficaces. C'est peut-être difficile à mettre en œuvre, ce sont des politiques décentralisées. Bout en a parlé de façon tout à fait bien tout à l'heure, en disant que ça posait des tas de questions, d'outils, de diversification des outils, de prix, etc. Mais c'est tout à fait faisable. Donc, c'est sur cette base que nous nous sommes posés pour dire... On pourrait passer de 520 TWh nécessaires ou de 425 TWh nécessaires d'électricité finale en 2009 à quelque chose autour de 300 en 2030. Et du coup en production de l'ordre de 340 ou 350 TWh pour tenir compte des pertes des réseaux, des autoconsommations d'électricité, etc. Donc c'est le point le plus important. Un programme d'économie d'électricité techniquement faisable, on connaît les éléments pour le faire, il n'y a pas d'invention manifeste, il faut le faire, c'est peut-être difficile, on regardera ce que ça veut dire du point de vue économique. Et derrière ça, un programme d'énergie renouvelable évidemment accéléré, mais qui par exemple en 2020 consiste à respecter ce qu'on a dit au Grenelle de l'environnement. Dans le Grenelle de l'environnement, dans la loi du Grenelle de l'environnement, il fallait faire tant d'électricité renouvelable. Alors tout le monde trouve que c'est complètement ridicule maintenant et qu'on ne va surtout pas faire le Grenelle de l'environnement. Moi j'étais resté bêtement dans l'idée qu'une loi s'était faite pour être appliquée et qu'on pouvait prendre cette hypothèse comme à peu près convenable. Dans ces conditions-là, avec ce passage obligé de 2020 d'un arrêt progressif du nucléaire et 2030, on arrive à peu près à s'en sortir du point de vue physique avec des renouvelables qui vont faire à peu près 80% du mix électrique, et le 20% qui reste, non pas en puissance mais en énergie, étant des centrales à gaz. Voilà en gros à quoi ça ressemble, ce genre de truc. Ça veut dire pas mal de gigawatts de puissance de centrales à gaz, de façon à être capable justement d'absorber les problèmes d'intermittence quand il y en a des énergies renouvelables. Bien. En termes de gaz à effet de serre, ça ne change pas fondamentalement les choses par rapport à aujourd'hui. On n'y gagne rien, mais on n'y perd pas grand-chose parce qu'on a remplacé essentiellement du charbon par du gaz avec de meilleurs rendements. Par conséquent, on reste dans le même ordre de grandeur sur les gaz à effet de serre, le CO2 tout au moins, du mix électrique, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, les émissions du mix électrique sont négligeables dans l'ensemble des émissions françaises. On n'essaye pas de gagner sur ce point. Alors derrière ça, il faut évidemment regarder l'économie des choses. Alors là, j'ai pris la chose en disant, on commence par regarder les coûts de production. Les chiffres que vous a montré Percebois sont à peu près les miens. Moi, j'étais parti sur un nucléaire EPR qui était entre 80 et 100 euros, 10 euros de plus que la Cour des comptes ne l'a imaginé. Pourquoi ? Parce que dans le calcul de la Cour des comptes, l'EPR fonctionnait à 90% de facteur de charge et que ça me paraît invraisemblable dans un parc où il y a beaucoup de nucléaire. On est plutôt vers 75-80%. Et d'autre part, parce qu'il n'était pas envisagé de coût d'assurance contre le risque majeur. Et si on admet qu'il y a un risque majeur, ben il faut s'assurer contre, ou prévoir une cagnotte pour ce risque majeur. La Cour l'avait évalué pour 70 milliards d'euros à 1 euro et quelque chose par mégawattheure, et comme la même Cour dit dans une note de bas de page, que je voudrais bien me faire confirmer, mais Lacoste n'est plus là, que l'IRSN pense qu'un accident du type Fukushima ou Tchernobyl va coûter entre 600 et 1000 milliards d'euros, il suffit de faire la multiplication pour voir que ça coûte une dizaine d'euros par mégawattheure d'assurance. Bien. À ces détails près, j'ai pas de grosses difficultés avec les chiffres que Percebois, on a des petits écarts mais qui sont négligeables, qui se jouent en quelques 5 ou 10%. Et je n'ai pas réussi à monter que le coût de production de la sortie du nucléaire était plus cher que le coût d'y rester. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de 150 TWh de moins. Et c'est là que je voudrais insister sur quelque chose. Tous les exposés qui ont été faits aujourd'hui consistent à dire le kilowattheure va coûter plus cher ou moins cher. Mais quand vous êtes la collectivité nationale ou quand vous êtes un individu usager, c'est pas le kilowattheure qui vous intéresse, c'est votre facture. Si votre kilowattheure est augmenté de 20%, mais que votre besoin d'électricité tombe de 30%, vous allez y gagner 10%. Or, assez curieusement, on ne parle jamais de ce genre de choses. Autrement dit, ça veut bien dire qu'il y a une espèce de consensus en France, culturel, comme quoi on ne peut pas économiser de l'électricité de façon significative. Ce raisonnement étant fait, je me suis demandé si, en termes de coûts d'investissement, j'avais tenu compte, évidemment, dans la facture, non seulement des coûts de production, mais des coûts d'économie d'électricité qu'on peut calculer, et enfin des coûts de distribution supplémentaires qui tiennent à une organisation du réseau qui devient décentralisée, alors que nous sommes pour l'instant dans un réseau totalement centralisé. Je n'arrivais pas à démontrer que c'était plus cher, c'était même un petit peu moins cher. En termes de coûts d'économie d'électricité, il y a un exercice qui a été fait par l'Union française de l'électricité de mérite order des économies d'électricité. Je l'ai regardé d'un peu près, je ne pense pas que la Commission l'ait fait. Et je me suis rendu compte qu'il y avait presque un facteur 10 par rapport aux évaluations que je connaissais. En particulier, par exemple, on calculait les économies d'un réfrigérateur de bonne qualité par rapport à un réfrigérateur de mauvaise qualité en regardant la différence de consommation annuelle, une centaine de kilowattheures, mais en considérant que l'investissement était l'investissement total du réfrigérateur et non pas la différence d'investissement entre les deux réfrigérateurs. Or, comme il y a un surcoût de l'ordre de 10%, si on prend l'ensemble du truc, ben on trouve un coût 10 fois trop élevé, c'est tout à fait évident. Mais je n'ai pas encore réussi à obtenir de l'UFE un démenti sur ces calculs, ou bien alors vraiment j'ai fait une erreur considérable, mais il y a manifestement un problème majeur. Autrement dit, le calcul de l'UFE consistait à dire j'achète un frigidaire, un réfrigérateur, pas tellement pour faire du froid, mais surtout pour faire des économies d'énergie. Alors effectivement, à ce moment-là, l'économie d'énergie est très chère, mais pour faire des économies d'énergie, c'est peut-être pas la peine d'acheter un frigidaire, il vaut mieux ne pas en acheter du tout. Donc voilà, on était devant ce genre de problème. Alors j'ai regardé aussi en termes d'investissement, si par hasard la facture en 2030, qui était finalement moins chère ou du même ordre de grandeur, ne se payait pas d'un surinvestissement considérable. Et j'ai constaté qu'on arrivait à des investissements du même ordre. Alors je dis du même ordre, moi j'ai trouvé 5% de moins, si vous me dites c'est 10% de plus, vu les incertitudes jusqu'à 2030, c'est tout à fait négligeable. Donc je n'arrive pas à démontrer que cette solution, économiquement et techniquement, est impossible pour des raisons et physiques et économiques. C'est donc vraiment un problème de choix. Alors, évidemment, je n'avais pas pris l'hypothèse jusque-là, qui a été retenue par la commission énergie, de dire « je ne fais rien, je continue à faire marcher le parc pendant 20 ans, avec le minimum de choses qu'il faut faire pour penser être sûr en termes de sûreté nucléaire, et je reporte à 2030 ou à 2040 l'ensemble des choses que j'ai à faire. » Ça a des avantages absolument considérables. Le démantèlement est reporté de 20 ans avec un taux d'actualisation de 5%, il n'existe plus du tout. Enfin, il y a une série d'avantages de nature économique, de nature financière qui apparaissent. Par contre, ça me paraît très dangereux parce que c'est très sensible économiquement au fait que l'ASN va dire ou pas dire, une fois les investissements faits, vous continuez ou vous continuez pas. C'est très sensible au fait que, si j'ai bien compris, si on fait des réacteurs nouveaux, c'est parce qu'on pense qu'ils sont plus sûrs que les réacteurs anciens et qu'il est peu probable que dans les 5 ans qui suivent, on arrive à mettre à l'état de l'EPR supposé beaucoup plus sûr que le précédent l'ensemble du parc français. Et c'est en même temps dangereux dans la mesure où pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose, on ne fait pas d'économie d'électricité car on ne sait pas faire des économies d'électricité avec un gros programme nucléaire. C'est ce qu'on a démontré jusqu'à maintenant, moins que d'autres. Et que d'autre part, on prépare mal l'avenir en laissant à nos petits-enfants le problème du démantèlement, le problème des déchets et le problème d'un renouvellement par un parc inconnu. Donc voilà les raisons qui me font dire que si nous pensons, si certains dans la population française pensent qu'il est dangereux de continuer, c'est à discuter, l'argument selon lequel on ne peut pas faire autrement, qui a émergé très vite en disant pour des raisons économiques, dans l'état de crise où on est, etc., etc., c'est impossible, ne me semble pas sérieux. Voilà ce que je voulais en dire.
C'était Benjamin Dessus, ingénieur économiste, président de Global Chance, qui prône la sortie du nucléaire comme énergie électrique en France. Il s'exprimait dans le cadre d'un colloque organisé à l'Académie des sciences morales et politiques en mars 2012. Restez en notre compagnie et téléchargez sur Canal Académie les deux autres retransmissions. Retrouvez dans un premier temps Jacques Lesourne, Jacques Percebois et Jean-Paul Bout. Jacques Lesourne est économiste, Jacques Percebois est président de la commission Énergie 2050 et Jean-Paul Bout est directeur de la stratégie du groupe EDF. Et retrouvez au cours d'une autre retransmission les observations en conclusion de ce colloque de Michel Pébreau et de Jean Béchler, tous deux membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.